Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et vos noms renouvelleraient la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, ou de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes au chapitre 10 de Saint Marc, l'évangile selon Saint Marc, étudiant les versets 17 à 27 sur le polycopier qui contient les chapitres, l'explication des pères de l'Église sur les chapitres 6 à 10, donc à la page 29. Donc notre Seigneur Jésus-Christ vient de parler avec un jeune homme riche, qui lui demande, bon maître, que dois-je faire pour acquérir la vie éternelle? Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui donner la règle générale commune à tous, tous les hommes, suivent la loi des commandements de Dieu. Vous connaissez les commandements, lui dit-il, commettez pas l'adultère, ne tuez pas, ne dérobez pas, ne portez pas le faux témoignage, ne faites tort à personne, honorez votre père et votre mère. Et il répondit, disant, maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et c'est là où il y a la phrase importante, Jésus l'ayant regardé les mains. Je vous ai expliqué la dernière fois que c'est ici le symbole de la vocation. Notre Seigneur Jésus-Christ aime d'une façon toute particulière cette personne. Je vous l'ai déjà dit souvent, il n'y a pas d'égalité devant Dieu. Chaque âme est différente. Dieu aime certaines âmes plus qu'il n'aime d'autres âmes. Il aime toutes les âmes, bien sûr, parce que toutes les âmes sont créées par lui. Mais il y a certaines âmes qui l'aiment davantage. Alors, essayons un petit peu de voir que signifie cette parole. Dieu l'aima. Donc, encore une fois, par cet amour particulier qui est manifesté dans ce mot, notre Seigneur Jésus-Christ manifeste une attention particulière qu'il porte à ce jeune homme. Et donc après lui avoir rappelé les choses qui sont indispensables pour tout le monde, il va lui proposer une voie plus spéciale, plus particulière, plus personnelle, en rajoutant à la loi générale, la loi des 10 commandements de Dieu, une loi qu'il propose à ceux qu'il aime d'un amour plus particulier, à savoir la loi des 3 conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. Pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et obéissance pour lutter contre la concupiscence de l'orgueil. Donc ceux qui suivent la loi des 10 commandements de Dieu sont des hommes et des femmes qui vont avoir une liberté beaucoup plus grande que les autres. Quelqu'un, ça qu'il faut arriver à comprendre, quelqu'un est libre dans la mesure où il n'est pas enchaîné par ses passions. Les gens du monde, qui vivent dans le monde, selon l'esprit du monde, se croient libres. Si vous leur posez la question, êtes-vous libre? Ils vont répondre, bien sûr que je suis libre. Ils se croient libres, mais en fait, ils sont enchaînés, parce qu'ils sont enchaînés justement par les passions des 3 concupiscences, des yeux, de la chair et du monde, et de l'orgueil. Au contraire, quelqu'un qui est protégé par les 3 vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, par exemple un moine dans son couvent, dans son monastère, s'est coupé de ses concupiscences et donc a trouvé la véritable liberté. Donc ceux qui se croient libres dans le monde moderne en fait ne le sont pas, et sont en fait des esclaves de leurs passions, et ceux que les gens du monde moderne considèrent comme étant esclaves, eux sont parfaitement libres, à savoir les religieux par exemple. Donc continuons les explications des pères, page 29, en bas de la page. D'abord une citation de Saint Jean Chrysostome, « Il n'est pas sans intérêt d'examiner comment Jésus a pu aimer un homme qui ne devait pas le suivre. » Or voici ce que l'on peut dire. Quant à la première partie de sa vie où il avait observé toute la loi de sa jeunesse, il était digne de l'amour du Sauveur. Dans la seconde, il n'a point, il est vrai, embrassé la voie de la perfection, c'est-à-dire la voie des trois conseils évangéliques, mais il n'a pas point mérité non plus de voir diminuer l'affection que Jésus lui avait enseignée. Jésus aime tous les hommes, même les pécheurs. Et j'irais, d'un certain côté, notre Seigneur Jésus-Christ a un amour tout particulier pour les pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il sait que les pécheurs sont des gens qui ont plus besoin de sa miséricorde que les gens qui vivent en suivant la loi des commandements de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se décourager. Souvent, des gens qui vivent dans le péché ou qui ont commis une grosse faute, une faute grave, un gros péché mortel, me disent « Monsieur l'abbé, j'ai commis une grosse faute mortelle, alors j'ai arrêté de prier parce que je ne suis plus digne de prier. » Si vous attendez d'être digne pour prier, vous pouvez attendre longtemps. Personne n'est digne dans ce sens-là. Mais c'est précisément lorsque nous avons perdu la grâce du bon Dieu qu'il nous faut prier. Donc les pécheurs, ceux qui vivent dans le péché, ont encore plus besoin de prier pour qu'ils puissent trouver, recevoir du bon Dieu la grâce nécessaire par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie pour sortir du péché. Donc ce jeune homme riche n'a point dépassé les limites de la faiblesse humaine en refusant de suivre Jésus-Christ, mais il ne s'est rendu coupable d'aucun crime. Il a été fidèle observateur de la loi selon la mesure ordinaire, et c'est cette fidélité qui l'a rendu digne de l'amour de Jésus-Christ. C'est car tout homme qui veut être parfait doit vendre ce qu'il possède, non pas en partie, comme Ananie et Saphir, mais en totalité. En fait, Ananie et Saphir, qui ont perdu la vie, non pas parce qu'ils avaient gardé la moitié de leur avoir, de leur bien, mais parce qu'ils ont menti. Ils prétendaient avoir donné tout leur bien aux apôtres, alors qu'en fait, ils n'avaient donné que la moitié de ce bien. Voilà pourquoi ils ont été condamnés. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que à partir du moment où quelqu'un suit la loi des 10 commandements de Dieu, il est déjà en état de grâce. Il est déjà en état de grâce, et même s'il avait une vocation, même si Dieu aurait souhaité pour lui qu'il rajoute à la loi des 10 commandements de Dieu, la loi des la loi de la charité, c'est-à-dire la loi des trois conseils évangéliques, la possibilité plus exactement des trois conseils évangéliques, eh bien, une personne qui refuse ces trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, peut quand même se sauver à partir du moment où il suit les commandements de Dieu. C'est une question qu'on nous pose souvent. Souvent, les gens me posent la question, « Monsieur l'abbé, je pense que j'avais la vocation quand j'étais enfant. Malheureusement, bon, je n'ai pas été fidèle à cet appel. Et puis, je n'ai pas suivi l'appel du bon Dieu. Je me suis marié, j'ai une famille. Est-ce que c'est trop tard pour moi? Est-ce que je peux encore sauver mon âme? » La réponse est positive. Bien sûr que vous pouvez sauver votre âme. À partir du moment où vous êtes marié, Dieu est obligé de vous donner les grâces dont vous avez besoin pour vous sanctifier dans l'état de mariage et pour sanctifier votre épouse et vos enfants. Sinon, le bon Dieu nous demanderait des choses impossibles. N'oubliez pas que ceux qui se sont donné mutuellement le sacrement de mariage reçoivent avec ce sacrement de mariage qu'ils se donnent les grâces sacramentelles qui correspondent à ce sacrement de mariage. Quand on se marie, on reçoit la grâce sacramentelle du sacrement de mariage. Quand on devient prêtre, on reçoit la grâce sacramentelle du sacrement de l'ordre, qui n'est pas la même. Donc, même si quelqu'un a refusé une vocation, il peut encore se sauver, mais il aura plus de difficultés. Il aura plus de difficultés parce qu'il va se retrouver dans un état de vie qui n'est pas ce que le bon Dieu avait voulu pour lui. En plus, il faut avouer que dans certains cas, ce n'est pas très clair. Il m'arrive régulièrement aussi de recevoir des coups de téléphone ou des messages de personnes qui ont l'âge de se marier, l'âge de et la maturité pour rentrer, penser à la vie religieuse, mais qui me disent, Monsieur l'abbé, voilà, je suis allé faire la retraite, j'ai fait même plusieurs retraites, par exemple, avec vous, et je vois pas clair. Je ne suis pas sûr du tout que le bon Dieu souhaite que je rentre dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, dans un séminaire, par exemple. Je ne suis pas sûr de moi, et j'ai fait une élection de vie, et c'est pas clair, qu'est-ce que je dois faire? Et je réponds toujours la même chose, si c'est pas clair, attendez. Bon. Si ça se clarifie au bout d'un certain temps, et que vous avez vraiment la certitude morale que le bon Dieu vous appelle à la vie religieuse, alors il faudra la suivre. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, à ce moment-là, la voie commune reste ouverte pour vous. Mariez-vous et fondez une famille. Et le bon Dieu ne vous le reprochera jamais parce que justement, vous n'avez pas eu la conscience nécessaire pour avoir une certitude morale que le bon Dieu vous appelait à la vie religieuse. Je dis la même chose également pour un jeune homme ou une jeune fille, et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, qui pense au mariage. Ils sont même fiancés. Mademoiselle est fiancée, par exemple. Et puis, 15 jours, 3 semaines avant le mariage, elle vient me voir en privé, dans les préparations au mariage, par exemple, mais elle me dit, Monsieur l'abbé, je ne le sens pas, comme elles disent. Je ne le sens pas. Je ne suis pas sûr que ce soit la volonté du bon Dieu que je me marie avec telle personne, que je me marie maintenant. Je ne suis vraiment pas sûr de moi. Je suis un peu inquiet. Je me demande si je ne fais pas une bêtise. Beaucoup de mes amis qui me connaissent très bien, qui connaissent très bien mon fiancé, pensent qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. J'hésite énormément. Que dois-je faire? Ne vous mariez pas, mademoiselle. Attendez. Mais, monsieur l'abbé, les invitations sont déjà envoyées, les cadeaux sont déjà là. Qu'est-ce que je dois faire? Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Tant que vous n'êtes pas marié à l'hôtel, eh bien, vous êtes libre. Vous êtes libre. Moi, j'ai connu un cas comme ça. Pas si j'ai déjà donné cet exemple. J'ai connu un cas d'une jeune fille qui s'est rendue compte qu'elle était en train de faire une bêtise alors qu'elle était au bras de son fiancé, en train de remonter l'aile, de remonter l'allée centrale de l'église dans laquelle elle se mariait, pour aller à l'hôtel où elle devait se marier. Et le jeune homme qu'elle avait choisi, qui était à son bras, lui a dit, alors qu'il marchait avec elle, tout bas, à l'oreille, Regarde bien cette église, parce que c'est la dernière fois qu'on met les pieds dans une église. Et d'un seul coup, le voile est tombé. Elle s'est rendue compte que le jeune homme lui avait jouer la comédie jusqu'à présent. Elle s'est arrêtée net, elle a quitté le bras de son fiancé, elle a fait demi-tour, elle est ressortie. Elle ne s'est pas mariée, heureusement, avec lui. Alors, continuons les explications des pères en bas de la page 29. Il y a une grande différence, disent les pères, entre la possession et l'amour des richesses. Aussi, Salomon ne dit pas celui qui possède, mais celui qui aime les richesses n'en retirera aucun fruit. Encore une fois, ce n'est pas un péché en soi d'avoir une certaine aisance financière. C'est un péché d'être trop attaché à cet argent. Mais en soi, d'avoir une facilité financière, d'avoir même du surplus, n'est pas un péché. Il y avait des gens riches, encore une fois, qui côtoyaient notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ expliquait aux riches, justement, que s'ils avaient du surplus, eh bien, ils devaient utiliser ce surplus pour aider les pauvres. En soi, c'est la même chose aujourd'hui. C'est pas parce que quelqu'un a une certaine aisance financière que ça veut dire qu'il va se damner. Ah, monsieur l'abbé, je suis riche, donc j'ai tombé en enfer à tous les coups parce que tous les riches ne peuvent pas rentrer dans les riches ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit que les riches ne pouvaient pas rentrer dans le royaume des cieux. Il a expliqué que les richesses sont dangereuses et qu'il est le plus difficile pour un riche d'aller au ciel que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais c'est une image qu'il prend pour bien montrer que plus nous sommes attachés aux richesses, plus il est difficile de sauver son âme. Ça, c'est vrai. Et quand on a des grandes richesses, il faut faire attention justement de ne pas y attacher son cœur pour pouvoir garder sa liberté de manœuvre devant le monde et rester en état de grâce. Mais si quelqu'un peut avoir une certaine facilité financière, rester en état de grâce, Deo gratias, mais c'est difficile. Et au-delà d'une certaine richesse, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment plus qu'une aisance financière, mais qui est par exemple un millionnaire, est-ce qu'il est possible en soi pour un millionnaire de sauver son âme? La réponse est oui. En soi, dans la pratique, c'est extrêmement difficile, voire même presque impossible, parce que lorsque les tentations sont trop fortes, et quelqu'un qui a des millions et des millions d'euros à sa disposition tout le temps, qui peut brûler son argent n'importe comment, n'importe quand, comme on dit, eh bien, il est évident qu'une telle personne aura bien du mal à sauver son âme. Dans un sens plus élevé, disent les pères, il est plus facile à Jésus-Christ de souffrir pour ses amis qu'aux amateurs du siècle de se convertir à Jésus-Christ. Passons à la page 30. Alors, c'est notre Seigneur, nous disent les pères, que nous devons voir sous l'emblème de ce chameau. C'est là, les versets 24 et 25, 23 même. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ses paroles, mais Jésus, reprenant, leur dit, « Mes petits-enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, qui n'est pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire se confier dans la richesse? Ça veut dire s'attacher aux richesses. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, ce chameau représente notre Seigneur Jésus-Christ, de même que le chameau porte les charges lourdes sur un bâti qu'on place sur son dos. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu placer sur son dos le fardeau de notre humanité pour pouvoir payer pour nos péchés. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain qui explique très bien la chose. Ce bon samaritain va soigner le pauvre homme qu'il a rencontré, qui est au bord de la route à moitié mort, qui a été dépouillé par les brigands. Donc il va verser sur ses blessures l'huile et le vin pour soigner les blessures. Et ensuite, que fait-il? L'évangile nous dit qu'il va placer le corps de cet homme moribond sur sa propre monture, sur l'âne qu'il utilisait. Et tous les pères de l'Église expliquent que cette monture, l'âne, représente notre frère âne, c'est-à-dire notre humanité. Donc l'âne représente l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ qui porte sur elle le fardeau de nos péchés. Passer par le trou d'une aiguille, qu'est-ce que signifie cette aiguille? Donc cette aiguille signifie, disent les pères, les traits perçants, et les douleurs aiguës de sa passion. Et ce trou de l'aiguille, le chat de l'aiguille, ce sont les angoisses de sa passion, dont il s'est servi pour remettre à neuf les vêtements usés de notre vieille nature. Notre Seigneur, si vous voulez, va repriser notre vieille nature, qui est toute percée de coups, qui est sale à cause du péché. Il va remettre tout cela à neuf par sa passion. Ils furent encore plus étonnés, les disciples, et ils se disaient les uns les autres, « Et qui donc peut-être sauvé ?» Et Jésus leur dit, « Ceci est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque tout est possible à Dieu, un riche peut se sauver. Vous voyez? Un riche peut se sauver. Donc il est sûr que c'est un point important à comprendre. Prenez par exemple les siècles de foi. Au Moyen-Âge, il y avait des gens riches, mais il n'y avait pas ces différences au niveau des richesses, ces différences extraordinaires qu'il y a aujourd'hui entre les pauvres et les riches. Vous avez des patrons de multinationales qui gagnent peut-être 1000 fois plus que certains salariés de leur entreprise. Bon, il est évident que les différences de salaire pareilles ne sont pas normales. Pas normales. Ceci dit, il est normal que quelqu'un qui a fait des longues études, qui a des grosses responsabilités dans une entreprise, gagne plus d'argent en salaire que quelqu'un qui est un ouvrier de base et qui n'a pas les mêmes responsabilités. Cependant, c'est les différences énormes qui existent entre le salaire de ces grands chefs d'entreprise et le salaire des ouvriers n'est pas normal. Il n'est pas normal non plus que une entreprise qui fasse des gros bénéfices et qui engrange des bénéfices énormes ne réserve ses bénéfices que pour les actionnaires et oublie d'augmenter régulièrement les gens qui travaillent dans l'entreprise. N'oubliez pas, mes bien chers frères, que l'Église catholique a condamné pas simplement le communisme et le socialisme, mais également le capitalisme. Le capital qui remplace littéralement l'âme des ouvriers est quelque chose qui est condamné par l'Église. Attention, il faut du bon sens. Nous avançons dans Saint Marc chapitre 10, versets 28 à 31. Alors Pierre se mit à lui dire, nous, voici que nous avons tout quitté et que nous vous avons suivi. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, personne ne quittera sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses champs, pour moi et pour l'Évangile. Qui ne reçoivent 100 fois autant, maintenant, en ce temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs avec des persécutions et dans le siècle futur, la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers les premiers. Donc les apôtres avaient suivi notre Seigneur Jésus-Christ, avaient abandonné leur travail qu'ils avaient dans le monde. C'était pour la plupart pêcheurs. Pour certains d'entre eux, ils avaient abandonné la barque, les filets, tout ça, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, il faut bien comprendre cela, Dieu s'occupe de ses enfants. Lorsque j'ai quitté la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, évidemment, j'avais une certaine inquiétude en me disant, mais comment je vais faire pour vivre? Et je me suis rendu compte à quel point Dieu prend soin de ses enfants, surtout de ses prêtres. Bon, et je ne suis pas dans la misère, c'est-à-dire je ne meurs pas de faim parce que j'ai rien à manger, pas du tout. Bon, ceci dit, je dois faire attention, c'est évident, je ne vis pas sur l'or, assurez-vous, je n'ai pas une Mercedes ou une BMW de haut niveau comme véhicule, c'est évident. J'essaie de vivre une vie simple et le bon Dieu s'occupe de nous. Et permet que nos bienfaiteurs, justement, nous aident avec beaucoup de générosité. N'oubliez pas que les prêtres ne peuvent vivre qu'avec les dons des fidèles. Ils n'ont pas de salaire. Le seul argent qu'ils ont le droit de garder, c'est l'argent des honoraires de messe. Une fois que la messe est dite, ils peuvent garder l'argent des honoraires. Mais en dehors de ça, on ne peut pas vivre simplement avec les honoraires de messe. Ce serait tout à fait insuffisant. Eh bien, les prêtres comptent sur la générosité des fidèles. Et j'avoue que les fidèles ont toujours été très généreux. C'est pour cela, d'ailleurs, que même avant, bon, moi, j'en parle pas beaucoup parce que j'aime pas trop parler d'argent, mais avant, il y avait ce qu'on appelait le denier du culte. Le denier du culte, et les gens en France, l'habitude était de donner le denier du culte aux prêtres pendant la période du carême. Bon, souvent, les gens me demandent, monsieur l'abbé, combien il faut donner? Quel est le pourcentage de son salaire qu'il faut donner? J'ai toujours refusé de répondre à cette question, évidemment, parce que ça dépend des cas. Chacun donne en fonction de ses moyens, en fonction de ce qu'il peut donner. Il est évident que quelqu'un qui ramène péniblement 1 500 euros en fin de mois et qui a 3 enfants, bon, ben, il ne peut pas donner beaucoup à la quête. Par contre, quelqu'un qui ramènerait 10 fois plus aurait lui le droit le devoir de donner un peu plus. Donc en fonction de ce dont nous avons besoin, Dieu s'occupe de nous. Ceci dit, le prêtre doit suivre un esprit, même si un moine doit suivre les 3 vœux de pauvreté, chasteté, d'obéissance, un prêtre est tenu par le vœu de chasteté, qui est obligatoire pour tous les religieux. tous ceux qui ont donné leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. La vie sacerdotale, par exemple, tous les prêtres sont tenus par le vœu de chasteté. Par contre, strictement parlant, un prêtre séculier n'est pas tenu par un vœu de pauvreté, mais par un esprit de pauvreté. Donc il doit se couper de l'esprit du monde. C'est pour ça qu'un prêtre ne fume pas, un prêtre n'a pas de télévision, n'a pas de grand écran avec un cinéma, home cinéma comme on dit maintenant, un cinéma à la maison, des choses comme ça. Le prêtre doit suivre une vie de pauvreté et des principes d'obéissance, surtout quand il n'a pas de supérieur directement au-dessus de lui. C'est important. C'est pour cela qu'il est fondamental pour un prêtre qui est tout seul, comme moi, d'avoir une règle de vie très stricte. Hein? Donc des horaires pour se lever le matin, des horaires de coucher également, et s'imposer une quantité suffisante de vie spirituelle et de vie d'études. Hein? Parce que sinon, ce prêtre risque de commencer à suivre sa volonté propre à longueur de journée. Et il est bon aussi, pour un prêtre qui est tout seul, éventuellement d'avoir un conseiller, en quelque sorte, auquel il puisse prendre conseil dans les choses importantes. Je crois que c'est aussi quelque chose de très important. Moi-même, j'ai demandé à un évêque que je connais, qui est traditionnel, de bien vouloir être un peu mon évêque de tutelle, c'est-à-dire que quand j'ai une décision importante à prendre, il me connaît bien, c'est un ami aussi, quand j'ai une décision à prendre, je lui en parle, il me dit ce qu'il en pense et je m'oblige à suivre son opinion pour justement être sûr de ne pas suivre ma volonté propre. Alors donc rassurez-vous, j'ai tout ce qu'il faut pour manger, mais en même temps, vous voyez ici, on voit bien ce texte de l'évangile que nous méditons actuellement, que le bon Dieu a promis que nous recevrons au centuple. Je recevrai 100 fois autant maintenant, en ce temps présent, de tout ce que j'ai donné au bon Dieu. Pierre, disent les pères, a quitté bien peu de choses, et cependant elle dit, nous avons tout quitté, car il faut peu de choses pour nous rendre esclaves de la cupidité. Aussi, on est heureux quand on a su la sacrifier. Il ne veut pas ici nous engager à abandonner nos parents sans les assister, ni à nous séparer de nos épouses. Il nous apprend simplement à préférer l'honneur de Dieu à tous les intérêts du siècle. Les pharisiens qui étaient les premiers sont devenus les derniers. Donc, ceci représente le fait que le nouveau peuple élu, le peuple des catholiques, va prendre la place de l'ancien peuple élu, qui était le peuple des juifs. Le peuple élu de l'Ancien Testament, qui étaient les premiers, sont devenus les derniers parce que ils ont crucifié notre Seigneur. Rappelez-vous cette phrase terrible de l'Évangile. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est exactement ce qui s'est passé. Cependant, à la fin des temps, il y aura la conversion du peuple juif, ou au moins d'une partie du peuple juif. Les prophéties, les textes, entre autres de saint Paul, ne sont pas très clairs sur le sujet. Les pères de l'Église eux-mêmes ne savent pas exactement très bien comment interpréter ces textes, mais il est certain qu'à la fin des temps, il y aura une conversion au moins d'une partie du peuple juif, et même cette conversion sera un des signes de la fin des temps. C'est pour cela que lorsque les gens me disent autour de moi, monsieur l'abbé, on arrive à la fin du monde, je dis, attendez, elle est où la conversion du peuple juif? La tradition nous dit que ce sera un des signes de la fin des temps. Or, on ne le voit pas, donc on n'est pas encore du tout à la fin des temps. Ceux, au contraire, nous disent les pères, qui ont tout abandonné pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ont été, il est vrai, les derniers en ce monde, si l'on considère les épreuves, leurs épreuves et leurs afflictions. Mais ils seront les premiers par leur espérance en Dieu. C'est ainsi que tous ceux qui ont méprisé les biens de ce monde pour le royaume de Dieu goûtent avec une foi ferme les joies de ce royaume jusque dans cette vie pleine de persécutions et dans l'attente de la céleste patrie figurée par la droite et jouissent par avance de la félicité des élus. Dieu s'occupe de ses enfants en fonction de leurs besoins. Il est évident que, je ne sais pas moi, un moine qui est contemplatif dans un monastère n'a pas les mêmes besoins qu'un prêtre séculier. Bon, moi, je fais entre 50 et 60 000 kilomètres en voiture et chaque année. Bon, il est évident que si je fais 50 à 60 000 kilomètres de conduite chaque année pour mon apostolat, bon, ben, je ne vais pas me promener en vélo, c'est évident. Hein? Je suis obligé d'avoir une voiture correcte. Bon, je fais attention dans le choix de ma voiture. J'ai une Clio, enfin, une Clio des diesel. Bon, mais pour être sûr d'avoir des voitures en bon état, pour être sûr que je ne tombe pas en panne tout le temps, eh bien, j'économise justement l'argent que me donnent les fidèles pour pouvoir changer régulièrement ma voiture et avoir toujours une voiture en bon état. Et le bon Dieu s'occupe aussi de tout cela. Mais dans tous les domaines, je dirais, le domaine de la vie de tous les jours, les prêtres doivent garder une vie simple. Une vie, non pas une vie misérable, parce qu'il faut un minimum. Je me rappelle, ça m'a beaucoup frappé lorsque j'étais au Gabon. J'étais au Gabon pour prêcher les exercices. Et ça m'avait frappé, c'est un pays dans lequel le climat est très dur, surtout pour un Européen, à cause de l'extrême chaleur jointe à l'humidité. La chaleur humide est quelque chose de très difficile à supporter quand on n'est pas habitué. Et je me rappelle que Monseigneur Lefebvre, il avait dit la même chose aux missionnaires qui étaient en Inde, aux Indes, dans la fraternité Saint-Bélice. Il avait interdit à ses missionnaires, donc interdit aux supérieurs de la mission de Libreville, au Gabon, à ce que ses prêtres, et lui-même d'ailleurs, vivent à l'africaine dans les maisons. Parce qu'il savait qu'il avait l'expérience de la vie en Afrique, puisqu'il a été missionnaire en Afrique pendant de longues années, notamment au Gabon et également en Côte d'Ivoire. Et Monseigneur Lefebvre savait très bien que nous n'avions pas les santé pour vivre à l'africaine. Ce n'était pas possible. Entre autres, ça m'avait un peu choqué au début, pourtant il avait raison. Je me rappelle, il avait donné une règle en disant, je tiens absolument à ce que les prêtres missionnaires au Gabon, qui partent régulièrement comme ça en mission pendant 2-3 jours, et qui vont être pendant 2-3 jours en mission dans des conditions de chaleur, des conditions d'hygiène, des conditions de moustiques et de mouches très très difficiles à supporter, puissent, lorsqu'ils rentrent au prieuré, après leur mission, une fois leur mission terminée, qu'ils puissent avoir l'air conditionné dans leur chambre, pour qu'ils puissent récupérer. Et il avait même interdit, Monseigneur Lefebvre avait interdit au supérieur, que je connaissais bien, le supérieur de la mission au Gabon, de donner la nourriture selon les coutumes africaines, parce qu'on n'était pas habitué à cette nourriture, et il imposait à ce que le cuisinier de la maison cuisine justement à l'européenne pour que nous arrivions à tenir le coup. Et ce qui fait que les missionnaires là-bas tenaient le coup. Il avait fait les mêmes remarques aux supérieurs aux Indes. Et aux Indes, donc, qui étaient pleins de bonne volonté, mais qui vivaient un petit peu trop déconnectés du réel. Et il disait, moi je veux vivre comme les hindous. Donc les hindous couchent sur une natte par terre, jamais d'air conditionné, dans les campagnes, donc je vis comme eux. Et Monseigneur Lefebvre a dû lui faire la remarque en lui disant, peut-être que vous avez la santé suffisante de coucher sur une natte et de manger uniquement de la nourriture comme les gens autour de vous. N'oubliez pas que vous êtes en charge de prêtres et que les prêtres qui sont avec vous, eux, n'ont pas forcément cette santé. Moi, vous me faites coucher sur une natte tous les soirs, je le ferai par esprit de pénitence, mais je ne vais pas tenir le coup longtemps, parce que si je couche sur une natte, je suis peut-être une petite nature, mais si je couche sur une natte, je ne ferme pas l'œil de la nuit. Alors, une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits, ça va, mais si toutes les nuits c'est comme ça et que je dors jamais, je ne vais pas tenir le coup longtemps. Monseigneur Lefebvre nous avait fait la remarque, il nous avait dit, dans tous ces pays, parce qu'il a été supérieur en tant que délégué apostolique du pape Pie XII, Monseigneur Lefebvre a été supérieur donc d'une grande partie de l'Afrique. C'est lui qui réglait les successions apostoliques, les nominations des évêques pour pratiquement la moitié de l'Afrique. Et il nous disait qu'il avait été extrêmement frappé d'une chose, il nous avait donné cet exemple, que dans certains pays, il parlait entre autres du Dahomey, dans certains pays d'Afrique, avec des climats très rudes, il nous disait quand vous alliez voir les cimetières autour des églises dans les grandes villes, ils ont été frappés de voir le nombre de croix, de tombes, de tout jeunes prêtres qui étaient arrivés d'Europe. C'était des gens qui arrivaient, jeunes prêtres, jeunes ordonnés, ils arrivaient, et puis ils tenaient en général 3 ans. Et la croix indiquait qu'ils avaient fait 3 ans dans le pays, au bout de 3 ans ils étaient morts, décimés par les maladies tropicales, ils tenaient pas le coup. Décimés par la malaria, décimés par le paludisme, par les fièvres terribles qu'il y a là-bas, ils ne tenaient pas le coup. Et Mgr Lefebvre nous avait terminé sa conférence en nous disant la première condition pour être un bon prêtre, c'est d'être vivant. Et il avait raison. Vous voyez ? C'est là où la vertu de prudence intervient. Donc continuons les commentaires des pères. Tous les jours, disent les pères, en bas de la page 30, nous voyons de simples fidèles donner l'exemple des plus éminentes vertus. Et d'autres, pleins de ferveur au début de leur conversion, tombaient dans la tiédeur, et cédant une paresse insensée, finir par la chair après avoir commencé par l'esprit. Ce que veut dire ce verset, beaucoup des premiers seront les derniers, beaucoup des derniers seront les premiers. Sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas une seule faute que fait le voisin, je ne suis pas capable de la faire, même pire que lui, parce que j'ai besoin du bon Dieu pour persévérer. Et donc, si je n'ai pas ces grâces du bon Dieu, même si j'ai commencé par l'esprit, je peux malheureusement terminer par la chair. Alors qu'il faut commencer, on commence par la chair, on finit par l'esprit. C'est ça la conversion. Donc il faut demander au bon Dieu à la fois la vertu d'humilité. Si on a cette vertu d'humilité, on aura l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Mais avec cette vertu d'humilité, il faut aussi la prudence. N'oublions pas que la reine des vertus morales, c'est la vertu de prudence. La vertu de prudence. Souvent, les gens pensent, la plupart des fidèles, pensent que la vertu du chef, c'est la force. C'est faux. La vertu du chef, c'est la prudence. C'est la prudence. Et c'est une vertu difficile à pratiquer. Difficile à pratiquer. C'est l'expérience, et la grâce du bon Dieu, bien sûr, mais c'est l'expérience qui donne cette vertu de prudence. C'est la vertu de prudence qui est associée au don de sagesse. Avançons dans le texte de Saint Marc, chapitre 10 de Saint Marc, versets 32 à 34, en bas de la page 30, sur le polycopier. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux, et ils étaient troublés. Et ils le suivaient avec crainte. Et prenant de nouveau les 12 à part, Jésus se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes et aux anciens. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux gentils. Ils l'insulteront et cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir, et il ressuscitera le troisième jour. Et notre Seigneur Jésus-Christ ici annonce déjà le scandale de la croix. Scandale de la croix. Le scandale de la croix que les disciples ne vont pas comprendre. Ils vont être scandalisés justement parce qu'ils vont essayer de monter au ciel sans le scandale de la croix. Et notre Seigneur va devoir leur expliquer qu'ils vont tous être obligés de boire le calice de la passion, de participer à ce calice de la passion. Ce qui n'est pas une chose facile. Notre Seigneur, disent les pères, prévoyant le trouble que le spectacle de sa passion devait jeter dans l'âme de ses disciples, l'a prédit à la fois les tourments de sa passion et la gloire de sa résurrection. La passion mène à la résurrection. Il y a plusieurs étapes dans la vie du chrétien. On commence par la crèche de Bethléem, les joies de la nativité, et puis on monte lentement jusqu'au calvaire, là, c'est la crucifixion du Vendredi Saint, et à partir de cette crucifixion du Vendredi Saint, on peut monter au ciel. Mais il n'y a pas de raccourci, on ne peut pas passer directement de la crèche de Bethléem à la gloire du paradis, il faut passer par la souffrance. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il pratique cette vertu d'humilité, qu'il renonce à l'orgueil, qu'il renonce aux trois concupiscences et qu'il me suive. Nous sommes à la page 31 sur le polycopier. Jésus veut affermir le cœur de ses disciples qui, ainsi prévenus, devaient supporter plus facilement cette épreuve et ne pas s'en effrayer outre mesure comme des malheurs inattendus. Il veut encore les convaincre que sa mort est volontaire Car celui qui prévoit sa mort, qui peut la fuir, ne la fuit pas, montre avec évidence que c'est volontairement qu'il se livre à la mort. Il prend à part ses disciples, car il était juste que ce fût à ses amis les plus intimes qu'il révéla les mystères de sa passion. Notre Seigneur ne va pas révéler le mystère de sa passion à tous les disciples, à tous ceux qui le suivaient. Il va prononcer cette phrase, cet avertissement. Le Fils de l'homme sera livré, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux gentils, ils l'insulteront, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, le feront mourir. Il ressuscitera le troisième jour. Il ne va annoncer cette nouvelle qu'aux apôtres. Qu'aux apôtres. Les autres ne sont pas encore prêts. Donc notre Seigneur va les préparer donc au scandale de la croix, le scandale de la passion, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous aime d'un amour extraordinaire, extraordinairement débordant, et bien notre Seigneur va accepter de mourir pour chacun d'entre nous. Alors notez qu'il y a une hiérarchie des choses. Certes, il ressuscitera le troisième jour, mais il ne faut pas voir que ça. Il faut penser à la première partie. Attention, il sera livré, il sera condamné, il sera insulté, on lui crachera dessus, on le flagellera, on le fera mourir. Donc il y a deux erreurs à éviter. La première, c'est de se rappeler que de la première partie de la prophétie, oublier la deuxième. Donc on voit que la passion, on oublie la résurrection, on se décourage complètement. La deuxième erreur, c'est de se rappeler que de la deuxième partie, d'oublier la première partie. Ne voir que la résurrection et oublier complètement la passion. Et prétendre jouir la gloire et de la joie et la paix de la résurrection sans passer par la croix, ceci n'est pas possible. Chapitre 10, versets 35 à 40. Alors, Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de lui en disant « Maître, nous voulons que vous fassiez pour nous tout ce que nous demanderons. » Mais il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et lui dirent « Accordez-nous d'être assis l'un à votre droite et l'autre à votre gauche dans votre gloire. » Mais Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Et lui dire, « Nous le pouvons. » Mais Jésus leur dit, « Vous boirez en effet le calice que je dois boire et vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous le donner à tous, mais à ceux pour lesquels ceci a été préparé. » Et on voit très bien dans ce texte que les apôtres ne sont pas encore des saints. Hein. Saint Jacques et Saint Jean ne sont pas encore canonisés. Pas encore. Et donc ils vont demander quelque chose qui traduit un attachement désordonné à l'autorité. Hein. Que voulez-vous que je fasse ? Seigneur, accordez-nous d'être assis l'un à votre droite et l'un à votre gauche, que nous soyons, mon frère et moi, nous soyons tous les deux des ministres et des ministres importants. Nous voulons être un à votre droite, un à votre gauche et participer à votre gloire. À tel point que les autres, en attendant cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean, ce qui est normal. Et donc, on montre bien ici dans ce texte que Saint Jacques et Saint Jean n'avaient pas encore tout compris, étaient encore trop pétris d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs extraordinaire, je trouve que Saint Jacques et Saint Jean aient insisté certainement pour que Saint Marc donne cet exemple qui n'est pas du tout à la gloire de Saint Jacques et de Saint Jean. Exactement comme Saint Pierre a tenu à ce que dans l'évangile il soit parlé de son triple reniement, quand trois fois il a dit je ne connais pas cet homme. Et bien, il a voulu que ça soit dans l'évangile. Il aurait pu insister en tant que chef de l'église que ça ne soit pas dedans pour ne pas scandaliser les gens. Mais non, Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean, tous les trois ont voulu que leur manque de foi, en quelque sorte, soit traduit dans et inscrit dans le texte évangélique. Ça montre à quel degré de sainteté, justement, ils étaient arrivés après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc, les disciples, on le voit très bien ici, attendaient encore un messie politique, si vous voulez, un messie chef d'État. C'est pour ça qu'ils demandent à être littéralement les ministres de ce chef d'État. Ces disciples, qui avaient souvent entendu Jésus leur parler de son royaume, pensaient que l'établissement de ce royaume aurait lieu avant sa mort. Or, comme il vient de leur annoncer cette mort comme prochaine, ils s'empressent de solliciter de lui les honneurs de son royaume parce qu'ils pensaient que notre Seigneur Jésus-Christ avait allé mettre les Romains dehors, ici-bas, et devenir le chef de toutes les tribus d'Israël. Ce n'est pas du tout ce que voulait notre Seigneur. Donc c'est sa croix que Jésus appelle un calice et un baptême. Un calice, parce qu'elle est pour lui un breuvage qu'il accepte avec joie, et un baptême, car c'est par elle que nous sommes purifiés de nos fautes. Si notre Seigneur Jésus-Christ a voulu souffrir, eh bien vous et moi, mes bien chers frères, aussi nous serons appelés à souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ appelle sa passion un baptême, car il était évidemment immergé dans celui-ci selon les mots que David disait de lui-même et qui s'appliquaient au Christ. Souvenez-vous, sauvez-moi Seigneur, ô Dieu, car les eaux ont submergé mon âme. Je m'enfonce dans une boue profonde sans soutien. Je me tiens dans des eaux profondes où les flots m'ont englouti. C'est une image de sa passion qui va bientôt arriver et qui s'applique évidemment au Christ. Vous voyez, c'est toute la différence qui existe entre la foi catholique et la foi moderniste. La foi moderniste, c'est quoi? C'est la foi catholique moins la croix. On a enlevé la croix. Et c'est parce que la croix a été enlevée que l'Église moderne est incapable d'amener au paradis. Vous voyez? Donc ils veulent jamais mourir, jamais souffrir. Donc rendre les gens heureux ici-bas sur la terre. On n'en parle pas du paradis, mais on les prétend qu'ils peuvent devenir heureux ici-bas sur la terre. Parfaitement heureux. Ce n'est pas possible sans notre Seigneur Jésus-Christ. On avance, versets 41 à 45 de Saint Marc chapitre 10. Les 10 autres apôtres, entendant cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Mais Jésus, les appelant, leur dit, « Vous savez que ceux qui sont regardés comme les chefs des nations les dominent, et que les princes ont puissance sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, et quiconque voudra devenir le plus grand sera votre serviteur, et quiconque voudra être le premier parmi vous sera le serviteur de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être sauvé, mais pour servir, et pour donner sa vie comme la rançon d'un grand monde, d'un grand nombre. » Notre Seigneur, une fois de plus, leur rappelle l'importance de la vertu d'humilité. Parce que leurs dispositions étaient encore très imparfaites. Et plus tard, nous les verrons se céder mutuellement les premières places. Mais là, ils ne sont pas encore canonisés, ils ne sont pas encore saints, ils n'ont pas encore tout compris, encore une fois, parce qu'ils attendent trop un Messie temporel. Page 32. Le Seigneur applique un double remède à la plaie de l'âme de ses apôtres. Premièrement, il les appelle près de lui pour les consoler. Jésus les appela, dit l'évangéliste. Secondement, il leur enseigne que cette convoitise d'honneur, ce désir des premières places, est le propre des païens. Vous savez que ceux qui paraissent les chefs des nations leur commandent en maître et que les grands exercent sur elles l'empire. Et encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ insiste sur cette vertu, sur les trois conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. Pauvreté pour ne pas être attaché au bien de ce monde. Chasteté pour se couper, se libérer de la chaîne des tentations d'impureté. Et obéissance pour justement pratiquer cette vertu de docilité. Sans docilité, il n'y a pas d'obéissance. C'est pour ça que l'obéissance est tellement fondamentale et que le démon travaille tant pour que cette vertu d'obéissance disparaisse complètement dans les familles. Complètement dans les familles. On n'apprend plus aux gens à obéir. On voit tout le temps dans la rue, c'est ahurissant. Souvent dans les supermarchés, les mamans font leurs courses avec les enfants. Les enfants sont rois, font absolument ce qu'ils veulent. Souvent, ça m'est arrivé de voir en tête de gondole, lorsqu'on attend pour payer ses emplettes dans le supermarché, il y a souvent, évidemment, ils savent ce qu'ils font, ils ont mis là toujours des bonbons, des choses comme ça. Régulièrement, je vois des enfants de 5-6 ans qui sont avec leur maman. « Maman, je veux ces bonbons-là, je veux ces chewing-gums-là. » La mère dit « Non !»« Maman, je veux ces bonbons. » « Non !» Et qu'est-ce que fait l'enfant? Il prend le bonbon, il prend les bonbons, il prend le paquet de bonbons. Et il commence à l'ouvrir. Et la mère ne dit rien. Et paye le bonbon. J'aurais bien voulu faire une chose comme ça, voir ce qui se serait passé si j'avais fait une chose comme ça quand j'avais 5 ou 6 ans avec maman. Heureusement que ma mère n'était pas comme ça. Heureusement que mes parents m'ont appris l'esprit d'obéissance. Apprenez à vos enfants à obéir. Et obéir sans discuter. Et lorsque vous donnez un ordre, n'acceptez pas des remarques du genre « Pourquoi moi? Pourquoi je dois faire ça? » Parce que maman l'a dit. Parce que papa l'a dit. Voilà. Et qu'ils ont un principe d'autorité. Et que si on n'apprend pas à obéir, eh bien, on deviendra, on sera incapable de devenir un adulte. C'est ça le drame. Et si le monde moderne est devenu un enfer, une des raisons principales, sur le plan naturel, c'est que les hommes n'ont jamais appris à obéir. Et donc, n'ayant jamais appris à obéir comme enfant, eh bien, ils sont incapables de commander comme adultes. Et donc, ils viennent des nouilles. Voilà. Des nouilles flasques. En effet, chez les païens, disent les pères, les rois exercent l'autorité d'une manière absolue et tyrannique. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. C'est l'humilité, non les honneurs et la puissance, qui conduit à la perfection des vertus. L'humilité, les pères de l'Église disent que c'est le terreau des vertus. C'est le champ préparé pour recevoir la graine. Vous pouvez jeter des graines excellentes sur une terre qui n'est pas préparée, sur un terreau qui n'est pas préparé parce qu'il n'a pas été labouré, parce qu'il n'a pas été ameubli, parce que ameubli, je crois qu'on dit en français, oui, ameubli, c'est-à-dire qu'il n'a pas été rendu capable de recevoir la graine. Le sillon n'a pas été tracé, il n'y a pas assez d'humidité. C'est la graine qui tombe sur la terre, je veux dire sur la terre sèche, c'est la graine qui tombe sur les pierres, la graine qui tombe sur le chemin, les oiseaux du ciel, nous dit notre Seigneur, vont venir et vont dévorer la graine. Donc il faut avoir ce terreau de l'humilité. Ce terreau de l'humilité, ça commence par la docilité. La docilité, c'est l'obéissance. La docilité, ça consiste à reconnaître que j'ai besoin d'être formé. Malheur à ces enfants qui se croient tout permis parce qu'ils se plaignent déjà pour des petits adultes. Ben pourquoi il ne faut pas, dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, ne jamais donner l'impression à vos enfants qu'ils sont déjà des adultes? J'aime pas entendre une maman qui dit tout le temps, oh, j'ai parfaitement confiance en mes petits, en mes enfants. Vous avez tort, madame. Vous avez tort, faut pas faire confiance complètement aux enfants, en partie peut-être, mais en partie seulement. Les enfants, le péché, ont les marques du péché originel, les conséquences du péché originel, tous vos enfants. Ils ont l'ignorance, ils ont la faiblesse, ils ont la concupiscence, ils ont la malice. Parce qu'ils ont l'ignorance, il faut répéter 70 fois les mêmes choses pour que ça rentre. Ils ont la malice, donc ils auront une tendance au vol, une tendance au mensonge. Ils ont la faiblesse. Dans leur nature humaine, et à cause de cette faiblesse, ils auront la paresse, ils auront la concupiscence. Concupiscence des yeux, le désir de tout toucher, de tout avoir. Concupiscence de la chair, bon, peut-être pas encore chez un petit enfant, heureusement, ils n'ont pas encore concupiscence de la chair, innocemment comme tout petit, mais très vite ça va arriver, malheureusement. Et l'orgueil, ben, l'orgueil est là. Donc attention que l'humilité, donc qui est le fondement, qui est fondée sur la docilité et sur l'obéissance, eh bien représente ce terreau dans lequel seules les graines peuvent pousser. S'il n'y a pas de terreau de préparation, la graine ne peut pas pousser. Avant qu'il se fît homme, Jésus n'était connu que des anges. Après son incarnation, après sa mort sur la croix, non seulement il a été couvert lui-même de gloire, il nous a rendus participants de cette gloire et a régné en maître sur la foi, par la foi sur tout l'univers. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, dans la mesure où nous acceptons de participer à sa vie de souffrance, va nous faire participer aussi à sa vie de grâce et enfin nous faire participer à sa vie de gloire, nous rendre participants de cette gloire pour que nous puissions régner avec lui. C'est ça le paradis. Le paradis, c'est une participation directe à la gloire de Dieu sur nous. Versets 46 à 52. Ils vinrent ensuite à Jéricho. Et comme ils partaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée l'aveugle, était assis sur le bord du chemin demandant l'aumône. Ayant appris que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire: Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. et beaucoup le menaçaient pour qu'il se tue. Mais il criait bien plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi !» Alors Jésus, s'arrêtant, ordonna qu'on l'appelât, et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Ayez bon courage, levez-vous, il vous appelle !» Et au jeté son manteau, il vint en sautant vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» L'aveugle lui répondit, « Rabboni, que je vois !» Jésus lui dit, « Allez, votre foi vous a sauvé !» Allez, votre foi vous a sauvé. Et aussitôt, il vit et il suivait Jésus sur le chemin. Passage magnifique qui explique bien quel doit être notre comportement par rapport à notre Seigneur. Cet aveugle demande l'aumône et il entend une foule qui arrive. Donc il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit c'est Jésus de Nazareth, le grand prophète, qui est là. Alors il se lève, se met à crier, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait tout, attend. Il veut vérifier d'abord que cette personne a suffisamment de foi pour croire que Jésus peut le guérir. Et malgré les menaces des gens qui se disent, « Mais on n'entend plus le maître, on n'entend plus ce qu'il dit, taisez-vous !»« Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» Il va répéter les choses plusieurs fois. Alors Jésus, qui voit cet acte de foi, s'arrête et ordonne qu'on l'appelât. Amenez-moi cet aveugle. Alors on amène l'aveugle, il l'appelle. Que voulez-vous que je fasse ? Rabouni, maître, que je vois. Votre foi vous a sauvé. Notre Seigneur Jésus-Christ voit la foi de cet individu et aussitôt il vit et suivait Jésus sur le chemin. Donc, ayant été guéri, il change de vie. Il va suivre notre Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'il va le suivre en devenant son disciple? Ce n'est pas explicité dans l'Évangile, mais il va suivre notre Seigneur. Le vêtement de cet aveugle, il est noté qu'il a jeté son manteau. Le manteau de cet aveugle, de ce mendiant, signifie peut-être la pauvreté et l'indigence dont il était comme enveloppé. Il s'en débarrasse pour venir à Jésus. Et lorsqu'il est près de lui, le Sauveur l'interroge et lui dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Donc notre Seigneur Jésus-Christ attend, si vous voulez, de voir que cette personne a vraiment un véritable désir d'être guérie et qu'il croit que Jésus a le pouvoir de le guérir. Donc il exige un acte de foi. Et quel acte de foi il exige, hein? Si cet homme aveugle dit à notre Seigneur Jésus-Christ, « Maître, que je vois !» Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Je vous donne le pouvoir. Je sais que vous avez le pouvoir de guérir un aveugle de naissance. » Et pour guérir un aveugle de naissance, il faut être Dieu. Dieu seul peut faire des miracles comme cela. Saint Bède, le Vénérable, note « Celui qui avait la puissance de lui rendre la vue, pouvait-il ignorer le désir de cet aveugle ? S'il interroge, c'est donc pour que cet aveugle demande sa guérison. Et c'est pour ça que notre Seigneur va attendre plusieurs fois, il ne va pas immédiatement obtempérer à la demande au cri de l'aveugle, il attend. C'est pour faire naître dans son cœur une prière fervente. Il voulait tout à la fois exciter la foi de ceux qui en étaient témoins, les témoins, et montrer qu'il n'accordait cette grâce qu'à ceux qui en étaient dignes. Vous voyez, on voit bien ici à quel point notre Seigneur Jésus-Christ exige la foi. Il ne fait pas des miracles sans raison. Il ne va pas multiplier les miracles sans avoir une raison de les faire. Il les fait soit pour récompenser la foi de quelqu'un, soit pour augmenter la foi des gens. Mais la foi commande tout. Donc, s'il n'y a pas la foi, eh bien, à ce moment-là, s'il n'y a pas la foi, notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas le miracle. C'est pour ça qu'il est noté dans l'Évangile que, dans certains endroits, notre Seigneur Jésus-Christ fit très peu de miracles à cause du manque de foi des gens de cette ville. Voilà, nous allons arrêter là. Le prochain cours, Dieu aidant, je pourrais, je pense, terminer le chapitre 10 de Saint-Marc. Donc, on avance lentement. On a fait déjà pratiquement la moitié de cet évangile selon Saint-Marc. Encore beaucoup de choses à faire. Je vous répète Le conseil que je vous ai souvent donné, après les cours, obligez-vous à relire la semaine qui suit, avant d'écouter le cours suivant, obligez-vous à relire tranquillement le texte du polycopié après avoir écouté la conférence. Vous voyez, pour vous mettre tout cela dans le cœur et surtout comprendre l'évangile comme les pères de l'Église l'ont compris. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.